Eve, Dom les Koulam, voilà, on est très heureux de se retrouver pour la reprise, après une absence de combien? De près de 2 mois et quelques. Chodesh Tov, presque, on peut dire Shana Tova, on peut dire Khatima Tova, on peut dire Chorev Tov, ce que tu veux. C'est-à-dire, on est dans le livre de Shemot pour la 2e saison, et nous sommes au chapitre Kaf Gimel, verset Kaf. C'est-à-dire, au milieu de la paracha de Mishpat, enfin pas vraiment au milieu, vers la fin de la paracha de Mishpatim. D'accord? Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, on va se remettre un petit peu à niveau. La paracha de Mishpatim a commencé d'abord par les Mishpatim, par toutes les lois qui vont régler la vie en société. Elles font suite au Mahamad Har Sinai, au dévoilement au Mont Sinai, et on a passé toute la paracha en fait à expliquer pourquoi il fallait passer après le Mahamad Har Sinai par toutes ces lois. Eh bien, pour nous expliquer que justement, le dévoilement divin n'est pas seulement un acte ponctuel sur une montagne, mais il est présent dans chaque moment du quotidien, et d'où la paracha de Mishpatim qui va encadrer toute la vie du petit juif à son quotidien. Une fois qu'on a terminé toute la dimension des litiges qui pouvaient avoir lieu entre les personnes, que ce soit le plus important, à savoir, quelle est la chose la plus grave qu'on peut faire à une personne, qu'on puisse faire à une personne ? Non. On avait vu que justement pas. De lui prendre sa liberté. Puisque la première halakha qui est mise dans la paracha, c'est Eved Ivri. C'est le cas de l'esclave. Après, il y a celui qui a tué, après il y a d'autres de dommages corporels, et après il y a des dommages qui sont faits au bien de la personne, après c'est des dommages qui sont faits par les biens de la personne à d'autres, et ainsi de suite. On a passé en revue tous les dommages possibles et imaginables. Une fois qu'on a terminé cela, alors, Akadosh Baruch Hu peut nous mettre en place ce dévoilement qui va se passer au fur et à mesure du temps. Et donc on avait parlé des Shalosh Regalim Tachog Libashana, où il y a 3 rencontres avec le Créateur. Ça a l'air ? Et c'est sur ça qu'on avait terminé. Maintenant...
La rencontre, elle n'a pas lieu aux autres fêtes que les Chagim.
C'est-à-dire ? De quelle autre fête tu fais référence ? Il n'y a pas encore Hanouka, il n'y a pas encore Purim. Il n'y a pas encore Yom HaTzmaout, il n'y a pas encore Yom Yerushalayim. Donc lesquels te restent ? Hein ? Rosh Hashanah. Ah non, Sukkot, ça fait partie des Shalosh Regalim. Donc, il te manque Rosh Hashanah, Yom Kippour, et Shmini Atzeret, si tu ne le rattaches pas à Sukkot. Eh bien, ces 3 fêtes-là, tu n'y rencontres pas Pene Hashem. Tu y rencontres Lifnai Velifnim. Dans les 3 fêtes qu'on appelle de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, on rencontre la face de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste que la Torah me dit, Shalosh Pa'amim Bashana Yirei Kol Zechurechet, Pene, Adon Hashem. Me demande pas de t'expliquer ce que ça veut dire de rencontrer la face de Dieu, j'étais pas là-bas. Bezrat Hashem, on le saura. Mais, à Rosh Hashanah, Yom HaKippurim et Simchat Torah, on rentre encore plus profondément dans notre rencontre avec Dieu. Puisqu'on rentre l'ifnaï velifnim, c'est-à-dire à l'intérieur de la face. De l'intérieur. Donc c'est une autre, notre dimension de rencontre. D'accord ? Si je devais utiliser un terme shirachirique, eh bien je dirais que les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est la choupa, la rencontre sous la choupa entre le Khatan et la Kala, et Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Simchat Torah, c'est le moment où ils sont ensemble la nuit qui suit. C'est une autre rencontre. D'accord ?
Nous,
oui. Ah bah, on n'a ni l'un ni l'autre.
On n'a ni l'un ni l'autre.
Bah, oui. Bah, notre relation avec Dieu, elle est un petit peu pourrie.
Comment ?
Notre relation avec Dieu, elle est un peu pourrie.
Donc, on peut pas. C'est pas la même chose que la Tfila où on rentre dans la Avodah Zara.
Non, c'est pas qu'on rentre dans la Avodah Zara, c'est qu'on a tout simplement pas de rencontre.
On
a une rencontre théorique. Par l'intermédiaire de l'étude de ce qu'il veut de moi. C'est Katan. Ça va. Voilà, c'est le Bezrat Hashem. Il y a aujourd'hui les casques de réalité virtuelle. Tu mets ton casque et tu peux rencontrer, tu peux aller sur l'Everest et machin, et tu rencontres des personnes extraordinaires. Est-ce que c'est mettre des rencontres? Non, c'est un entraînement. C'est-à-dire? Et maintenant, on est parti. Ça y est, maintenant, on peut avancer. On peut dire que le verset Yutet du chapitre 23 termine le Mahamad Arsinaï. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Alors, allons-y. Iné, Anochi Sholeach Malach Lefanecha, Lishmorcha Badarech, Velaviacha, Elamakom Asher Achinoti. Donc Dieu dit à Moshe, je t'envoie un Malach. Et c'est lui qui te gardera pour t'emmener jusque là où, eh bien, voilà, là où je vais vous emmener. Regardez ce que dit Rashi. Rashi nous dit, Kan nidbaseru she'atidin lachato. Ushrina omeret lahem ki lo e'ele bekirbecha. Qu'est-ce que c'est très bizarre ce Rashi. Dieu nous dit, je vais t'envoyer un malach. Et Rashi nous dit, de là on apprend que Dieu a prévenu Moshe qu'ils allaient fauter. En l'occurrence dans le veau d'or. C'est très bizarre de dire ça. Il a prévenu qu'ils allaient fauter à l'avance. Où elle est la prière Chofshit? Où elle est le libre arbitre? Et puis, avant de donner ma réponse, il y a un autre problème. Après l'histoire du veau d'or, Dieu, il dit, je veux t'emmener à Malach. Après l'histoire du veau d'or, il dit, Nishlach lecha Malach. Et Moshe, il dit non, je veux pas. Lo rotse. Et là, il a rien dit. Ma Koré. C'est-à-dire, moi je sais parce que je triche. Mais on sait que moi j'ai le droit de tricher. Non, et puis j'utilise aussi Rashi qui me dit Nid Basrou, Azanime Vaser, Gam Lecha, qu'il y aura un truc après. Mais Kitzur, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est normal, il connaît le passé, le présent, le futur.
Oui, mais je croyais qu'il y avait du libre arbitre.
Il y a un paradoxe.
Il y a un paradoxe. Et donc on ne le règle pas. La question du libre arbitre, c'est un paradoxe qui est énorme. Hein, vous rappelez de la question du Tzemar Tzedek, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Hein, quelle est la réponse? Non? Bah donc il y a un truc qu'il ne peut pas faire, Dieu. Bah, je le prends simplement. Est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Ne change pas l'énoncé. Elle est faite pour ça, la question. Si tu me dis qu'il peut pas, alors il y a un truc qui peut pas. Si tu me dis qu'il peut, ça veut dire qu'il peut pas soulever la pierre. Nous dit le Tzemar Tzedek, Rabbi Schneerzal, Menachem Mendel Schneerson, mais c'est pas le même, hein, c'est que le dernier. C'est un ancêtre, c'est le troisième Rabbi de Chabad. Eh bien, le Tzemar Tzedek a répondu, oui, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, il l'a fait quand il a créé le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une pierre que Dieu ne peut pas soulever. Mais tu sais pourquoi il peut pas? Parce qu'il a décidé de pas pouvoir. C'est pas qu'il peut fondamentalement pas. Pourquoi, d'où je sais ça, nous dit le Tzemar Tzedek? Ben parce que Pharaon nous dit Rabbi Ovadia Sforno que Dieu lui a enlevé le libre arbitre. Et qui est devenu un pantin dans ses mains quand il lui a dit « J'ai endurci le cœur de Pharaon ». Donc ça veut dire que s'il peut me l'enlever, il le maîtrise mon libre arbitre, mais dès qu'il me le donne, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai au niveau individuel, pas au niveau collectif. Au niveau collectif, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire, la destinée collective du clan Israël, elle est, oui, déjà mis en place. Est-ce que toi et moi, on va en faire partie? Ça, c'est notre problème.
Est-ce qu'on peut chacun changer les choses?
tu peux pas changer le klal, puisque tu n'es qu'une expression de ce klal. Je te donne un exemple actuel. État d'Israël ou pas État d'Israël, pas de débat. Dieu a dit État d'Israël. Est-ce que toi, tu décides de prendre part à ce dévoilement de Dieu dans l'État d'Israël en faisant l'alia ou pas? C'est ton choix. Mais il y aura de toute façon l'État d'Israël. Même s'il y a 10 juifs dedans. Ah, c'est évident que si on est tous là, l'expression du projet divin est beaucoup plus grande.
Donc on a quand même un impact.
Mais de toute façon, tu as un impact. Rappelle-toi ce que Hillel Azakani t'a dit, tu dois te penser que c'est pour toi que le monde a été créé. Mais je veux simplement dire que ce que toi, tu vas décider de faire au niveau individuel, ça dépend de toi. Mais... Oui ?
Mais on est tous une unité. Donc
on n'est pas tous une unité.
Non.
Oui, mais ce n'est pas toi, plus moi, plus toi. Non. Non. Dans ton mère, non. Le peuple juif, ce n'est pas la somme de tous les juifs.
Non, je n'ai pas dit la somme.
Ah, peut-être que je t'ai mal compris alors.
Non.
Alors, vas-y, redis-moi.
Voilà.
Ben non, je t'en supplie.
C'est comme si on était un grand corps et on est chacun une partie de ce grand corps.
Tout à fait.
Chacun, on est.
Une expression de ce grand corps.
Les uns aux autres.
On est liés les uns aux autres, bien sûr. Mais s'il y en a un qui part.
Et moi, ça a un impact sur l'autre, sur l'ensemble.
Non, bidiouk.
Non.
C'est là où il y a le bug. Ça a un impact sur l'autre,
oui.
Mais ça n'a pas un impact sur l'ensemble.
Oui.
Le klal, il est le klal quoi qu'il arrive. La neshama collective du peuple juif, elle est immuable, quoi que tu fasses. Elle a précédé la création du monde et elle ne dépend pas de toi ni de moi. Par contre. Ton frère, ton mari, tes amis, Bichlal, un juif que tu connais pas, eh bien, tes actions ont une influence sur lui parce que quand l'Israël arrive, il zélazé. Mais, c'est pas Klal Israël. La Neshama Klalit, elle nous dépasse. Nous n'en sommes que des expressions. C'est-à-dire, donc, on exprime bien, on n'exprime pas bien, Zemayesh. Ok?
Il y a mille façons d'arriver à ce résultat final.
Oui, mais ça, c'est...
Mais c'est à l'intérieur du match. Mais le résultat global, on sait que ce sera 3-2.
Donc, il y a le klal et il y a le prat. Ça voilà. Dire. Il n'y a rien à
mettre.
Si on revenait au texte. Donc,
pardon,
nous dit Dieu, je vais t'envoyer un malach. Pourquoi est-ce que là, Moshe ne s'offusque pas et là-bas, il s'offusque? Bah, pour une raison très simple. Ici, ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté?
Non.
Non. Donc le malar, c'est un malar de Ligue des Champions. Si on reste dans le jargon footballistique. C'est un malar de Ligue des Champions. Alors que le malar, après Chet HaEgel, c'est un malar de CFA2. C'est un malar de petit niveau. Et donc Moshe, il dit, malar de petit niveau, nein. Mais quand c'est un malar, alors là, ok. Ça va? Alors, mais c'est malar. C'est une expression de la volonté du Créateur. Il y en a plein. Les malachim, il y en a plein. Il y a les Ophanim, il y a les Sraphim, il y a Michael qui vient expliquer, qui dévoile la volonté de qui est comme toi. Il y a Gabriel qui montre la Gvoura d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Raphaël qui montre la Refoua d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, donc, chacun a un travail qui est fixe, qui est de dévoiler un Retson Hashem. Ici, c'est quoi le ratson de ce malach-là? C'est de dévoiler le chemin des Eretz Israël. Ah non, le Rashi, on ne l'a pas expliqué. Là, il te dit, Rashi, je reprends le Rashi, « Kan nidbasru sh'atidim l'achato, oshrina omeret lahem ki lo ele bekirbecha. » C'est-à-dire que, là-bas, à l'histoire de Chet HaEgel, Dieu, il va dire, « Lo ele bekirbecha. » C'est-à-dire, je ne m'occupe plus de vous. Ah, si je m'occupe plus de vous, qui va s'occuper de nous? C'est pour ça qu'on nous parle d'un malar. Nachon, ça veut dire qu'en fait, c'est le même malar, entre là et là-bas. Seulement, lorsqu'on le présente ici, on le présente dans toute sa splendeur. lorsqu'il va venir concrètement faire le boulot, ah. Pourquoi ce Rashi, il est ici? Parce que c'est ici que Moshe va être mis au courant. Ok? Où est-ce que je vois ça? Je le vois pas. Je le vois pas. Ah, où est-ce que Rashi? Rashi, il le tient de sa Masoret.
Pourquoi c'est pas Hachem directement qui leur montre le chemin?
Parce que quand tu fautes.
Parce que, ah, voilà, alors c'est ça.
Bah, c'est pour ça qu'il te dit. C'est là qu'il a reçu l'info qu'ils vont fauter.
D'accord.
C'est ça? Ishamer mi panav, ushma bekolo, al tamerbo, ki lo yisa le pishachem, ki shmi bekirbo. C'est pas mal ça. Mise, maze. Al tamerbo, ça veut dire lashon amra'a, kmo asher yamre et picha, se révolter contre lui. Comment?
Shimuna amorim.
Shimuna amorim, d'accord. Donc, ça veut dire quoi cette histoire de Ishamer mipanav ushma bekolo, écoute-le bien, ne te révolte pas contre lui, ki lo yisa le pishachem ki shmi bekirbo. Mon nom est à l'intérieur de qui? Du malach ou de Klal Israël? T'as raison qu'au niveau du texte, ça semble être le malach. Mais... Hein? Non, non, bien sûr, non, c'est pour ça que je t'ai dit, au niveau du texte, c'est évidemment qu'il s'agit du malach. Mais, au niveau de l'enseignement du Sefer HaZohar, il s'agit de Klal Israël. Vous savez quoi? Ça ne nous dérange pas? C'est le même. C'est qui ce malach? Israël. Machenikra, la neshama collective du peuple juif. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. De là, cette façon-là, pourquoi est-ce que Dieu dit Loïssa le Pishachem? Il ne peut pas accepter vos révoltes, vos fautes qui viennent par révolte. Parce que Shmi Bekirbo, Israël. Et donc, lorsque Am Israël part en cacahuète, Zechilou Lachem. Mais à ce moment-là, le malach qui est mémouné à l'Israël, il ne peut pas remplir son rôle. D'accord? C'est vrai encore aujourd'hui. Lorsque le peuple juif fait n'importe quoi, eh bien, non seulement on dévoile pas Dieu, mais en plus, on bafoue son nom. Qui im shamo atishma bekolo, ve'asita kol asher adaber, ve'ayavti et oivecha, ve'tzarti et tzorerecha, ki yelech malachi lefanecha, ve'viacha el ha'emori, ve'achiti, ve'aperizi, ve'akena'ani, achivi, ve'ayivusi, ve'ikhadetiv. Donc, vous faites ce qu'il faut, et moi, en contrepartie, yelech malachi lefanecha, et donc, vous allez éclater vos ennemis. Tov, az mise. Hein? Misez le malach qui va devant nous et qui nous débarrasse de nos ennemis. Oui, mais là, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est qui? Malachi, Sheilech Lefanecha. Eh bien, on peut dire que c'est Yoshua. C'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui va recevoir le statut de roi d'Israël avant l'heure. Et c'est lui qui va nous débarrasser de nos ennemis. Pas entièrement. Parce que à Yevoussi, faudra attendre David pour battre le Yevoussi. C'est-à-dire, c'est un des peuples cananéens qui va rester en place jusqu'à l'époque du roi David.
Alors, maintenant, je comprends le Rashi.
Ah bon?
Parce que normalement, ça aurait dû être Moshe qui est la reine d'Israël.
Ok.
Et parce que il y a eu la faute.
Le fait que Moshe va rester dehors. Choliot. C'est pas... Ouais. Ah, même si la faute du veau d'or, c'est pas ça qui va entraîner...
Non, mais la faute des explorateurs.
Ouais, mais là, on fait pas encore référence à la faute des explorateurs. Mais c'est peut-être un kivoun. Faut creuser. Je dis pas oui, je dis pas non. לא תשתחווה לאלוהיהם. Tout à fait. Je voulais pas que tu me le dises. Ah là 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 là, ces gens qui étudient la Torah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors on va y aller, puisque tu le dis, on va y aller. Je vais répéter la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit quand il y a marqué « Kishmi bekirbo »« Mechubar le rosh amikra ishamer mipanav kishmi meshutav bo »« Verabotenu amru ze metatron » Sheshmo keshem rabo metatron begematria shaddai. T'as compris? Comment ça t'as pas compris? Et bien, ben en fait c'est qui ce malach qui a son nom, qui a le nom de Dieu en lui? C'est Métatron. Ah, c'est lui. Exactement. J'allais faire la référence. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent leur classique. Nachon, Métatron. Et d'après l'enseignement de la Kabbalah, il s'agit d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui n'accepte pas tout ce qui va à l'encontre du processus que Dieu a mis en place. Et il est prêt à détruire tout ce qui porte atteinte à la bonne marche du processus. Ah oui, ah, c'est pas chute. Pourquoi une dualité?
C'est une force de la chair.
Oui, et le mal aussi? Le mal a été créé par qui? Par Dieu? Là, il ne s'agit pas de mal, il s'agit de quelqu'un qui est prêt à utiliser les grands moyens pour que le projet divin se réalise.
Ah,
pour qu'il se réalise. Il n'est pas prêt à accepter que des gens qui mettent des bâtons dans les roues du projet divin. S'il faut éliminer ces gens-là, on éliminera ces gens-là. Y compris nous. C'est, il a le même nom que son prédécesseur, Métatron, qui a pour Gematria Shaddai. Shaddai, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu qui amène la vie. Donc, qui amar le olamo dai. Ok? Tov, alors, il y a fait mode. Donc, on va réussir, on va être accompagné par ce malach, on va battre nos ennemis. Akol Tov. Sauf qu'une fois qu'on aura battu nos ennemis, eh ben, on sera rentré dans leur univers. Et à ce moment-là, arrive le danger, comme dirait si bien Monsieur Zemmour, arrive le danger de l'assimilation. Qu'ont dit les historiens romains de la conquête de la Grèce, que les Romains ont été conquis par ceux qu'ils avaient conquis. La civilisation grecque a été battue militairement par les Romains, mais finalement, les Romains sont devenus des Grecs. C'est-à-dire, et le problème, c'est quand on arrive en Eretz Israël, on va battre nos ennemis sur le champ de bataille. Mais est-ce qu'on va pas être influencé par la culture cananéenne du terrain? C'est pour ça qu'on nous dit « Lo tishtachave l'Elohim, lo ta'ovdem » ולא תעשה כמעשיהם, כי ארס תארסם ושבר תשבר מצבותיהם. Mais pourquoi la Torah a besoin de me dire, te prosterne pas devant leur Dieu, machin? Qui lui est Shava Amina que oui? Qui lui j'aurais pu penser que c'est ce que je vais faire? Mais maintenant, ma c'est pour. Il y a une force fondamentale de la terre d'Israël. Et oui, il y a une tendance à vouloir se rattacher à ben, le concret, le tachlès de la terre d'Israël. Ça s'appelle comment à l'époque s'attacher au concret d'une terre? C'est la avodah zara de l'endroit. Vous savez que chaque peuple, il y avait ses dieux à eux. Ce sont des dieux locaux. C'est-à-dire? Et donc, quand la Torah nous dit, surtout t'attache pas à leur dieu, parce qu'il y aurait eu, oui, un danger de s'attacher, d'ailleurs on va le voir, finalement on va, oui, s'attacher à leur dieu. Et Aseret HaDibrot, c'est clali. Lo tishtachave le'el acher. Elohim Aseret HaLota. Mais on te dit pas certains en particulier. De manière clali. Là, on te dit non, mais il y a eux, ceux-là, faut pas t'attacher à eux. Comme s'il y avait un risque de d'affaire cela. Et d'ailleurs, on va voir que ce risque va se révéler vrai. C'est-à-dire, Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'attacher à eux? Quand on rentre, on détruit tout ce qui est symbole d'idolâtrie. On ne parle pas des peuples ici. Les peuples, on va les vaincre sur le champ de bataille. Là, on parle de leurs temples, on parle de leurs idoles, on parle de, des endroits qui sont mis en place. Qui ? On parle pas des peuples, je t'ai dit. Les peuples, on va les battre sur le champ de bataille. Ou on va les détruire, on va pas les détruire. Mais là, on s'en fiche. C'est pas, enfin, on s'en fiche pas, mais c'est pas le débat ici. Ici, c'est, ok, t'as tué tous les Cananéens. Mais si t'as laissé leur temple en place, tu vas finir par y aller. Il est, on dit, que ma'aseem, qui arrête arsem, veshaber, teshaber, matzevotem. Tu dois détruire leurs actions et leurs, matzevot, c'est-à-dire leur monument, merci. Leur monument. D'accord? Et ça, on va pas le faire.
Je comprends pas s'ils sont plus là, je m'excuse. S'ils sont plus là.
Oui, mais c'est pas les gens qui vont nous.
Il n'y a pas une influence. L'influence, elle vient d'un contact.
Eh ben, c'est là où que tu te trompes. Il y a bien sûr qu'il y a une influence quand tu es en contact avec des gens, ils vont t'influencer, bien sûr. Mais c'est là où nous, on a du mal à comprendre ça parce qu'on vit pas là-dedans. Mais il y a une influence de l'endroit. Non seulement les temples en eux-mêmes, mais également les temples, c'est aussi l'endroit. Bien sûr, ça va au-delà d'Eretz Israël. Par contre, là, on va cadrer la chose, c'est-à-dire, la Torah nous demande de détruire la Avodah Zarah qu'il y a en Eretz Israël, mais elle nous demande pas de détruire la nature sur laquelle il y a la Avodah Zarah. Ouais, voilà. C'est la montagne.
On va pas détruire l'endroit dans lequel on
construit. Alors, c'est normal. Mais, faut savoir que la Avodah Zarah, elle vient à cause de la nature. Ça veut dire que, quand on fait des fouilles archéologiques, on regarde que très souvent, là où il y a une église, ou une mosquée, quand on creuse plus en dessous, il y avait une église. Quand on creuse plus en dessous, il y avait un truc juif. Quand on creuse plus en dessous, on va retrouver un truc idolâtre. Quand on creuse plus en dessous, il y a un truc de sépulture, machin, préhistorique. C'est-à-dire, il semblerait que l'endroit génère une puissance que les hommes, quels qu'ils soient, ressentent. Et ça va se traduire différemment au fur et à mesure des époques. Et ben, ça tombe plus ou moins juste tout le temps. À tel point qu'il y a des endroits où on va pas construire de choses, mais l'endroit est considéré par les peuples comme étant un endroit de sainteté, et ainsi de suite.
C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller dans un temple bouddhiste, par exemple.
Alors, on n'a pas le droit d'aller dans un temple de Avodah Zarah en action. Non. En action, parce que tu rejettes la Avodah Zarah.
Si
tu veux visiter une belle église, une belle cathédrale, on n'a pas le droit, parce que c'est une idolâtrie qui est en marche, qui est en action. Par contre, si tu veux visiter une chapelle du XIIIe siècle qui a été complètement détruite et qui est plus du tout en fonction, ça tu peux. Ce qu'on appelle en français désacraliser. Un temple grec, machin, tu peux. Mais un temple d'idolâtrie qui est en fonction, non.
Mais là, s'ils ont détruit tous les ennemis,
ils l'ont pas fait. Oui, mais alors, d'abord, un, on sait qu'ils vont pas détruire tous les ennemis, et deux, ils vont pas non plus détruire les endroits. Ah oui, mais là, tu poses une bonne question. Est-ce qu'on est obligé de détruire la Avodah Zarah de Khoutsala Aretz?
Non, mais eux, pour eux.
Pour eux, tu dis, ils ont pris ce verset pour eux.
Oui.
Non, mais moi, je pose, j'ai compris que tu faisais un billet d'humour, mais moi, je pose la vraie question.
Non, c'est pas un billet d'humour. C'est ce que
nous... Ben non, justement, parce qu'on nous dit de pas le faire en Khoutsala Aretz.
Non, je parle pas de Khoutsala Aretz, mais de le faire en Israël, ce que les talibans...
Ah, les talibans, ils font ça dans certains endroits, ils détruisent tout ce qui était symbole d'autres religions. Et le monde entier s'offusque parce qu'ils détruisent des monuments de l'humanité fantastiques. Ils en ont très peur, d'accord? Mais quand on entend tout le monde crier au loup, ou pas au loup, en disant « mais c'est terrible, enfin c'est terrible, ce sont des monuments de l'architecture, des merveilles du monde. » Oui, il y en a plein des trucs. Eh bien, il faut bien savoir que nous prenons la même chose en Eretz Israël. Nous prenons la même chose en... Ah non, nous prenons la même chose en Eretz Israël, et pourtant on le fait pas. C'est ce qu'on appelle halakha ve'en morinken. C'est-à-dire, c'est une halakha, mais on dit pas de le faire. Pourquoi? Mishum Eva aujourd'hui, et aussi peut-être Mishum que ça servira plus tard en bien. Eh bien, n'oublie pas ce qu'il y a marqué d'abord dans le Talmud, enfin dans le Tanakh qui est repris par le Talmud, lorsque le Tanakh nous parle du moment où on va transformer les temples d'idolâtrie, le Talmud nous dira, viendra un temps où on va transformer les stades et les théâtraux de Rome pour en faire des endroits où on va enseigner la Torah. Au-delà de cela, eh bien, va écrire Jean Vassal ce livre qui s'appelle l'Église comme étant le représentant du peuple juif dans le monde, un truc comme ça, Machoukazé, où il dit que il ne s'agit pas de détruire le christianisme, il s'agit simplement de lui enlever les problématiques d'idolâtrie. Tu enlèves la grosse croix, tu enlèves les représentations de Jésus, et le monument de la cathédrale peut devenir la nouvelle synagogue des goïms pour servir Dieu. Donc, je dis, on ne détruit pas les monuments de christianisme, parce que, un, on ne veut pas rentrer en guerre contre le Vatican et tout le monde chrétien, et deuxièmement, parce qu'il est très possible qu'à un moment donné, ils fassent tchouva, et que donc à ce moment-là, on puisse se servir de ces endroits qu'ils ont construits pour eh bien, y diffuser le bien. Donc voilà. C'est en grande partie, il y a une question qui a été posée par Rabbi Ovadia Aguer. Il a posé la question au Rambam, est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jésus, de Mahomet, du christianisme et de l'islam? Et le Rambam répond que non, on n'a pas le droit de se moquer ni de Jésus, ni de Mahomet, ni du christianisme, ni de l'islam. Pourquoi? Eh bien parce que bien qu'il l'ait fait de manière où on a beaucoup de choses à redire, ils ont permis de dévoiler le monothéisme et des grandes notions bibliques à pratiquement la majorité de l'humanité. Donc, bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait de manière cachère, mais c'est quand même vachement mieux le christianisme que l'idolâtrie d'avant. Ok ? D'accord ? Vavadetem et Hashem Elohechem. Donc, on aura, une fois qu'on détruit l'idolâtrie, eh ben on peut l'avadet Hashem. וברך את לחמך ואת ממך ואסירותי מחלה מקרבך. Donc nous dit Dieu, tu fais ce qu'il faut, il est top. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. מה זה משקלה? מה זה משקלה? Et il te dit quoi là? Qui fait une fausse couche ou même qui perd ses enfants. C'est-à-dire, même après qu'il soit né. C'est-à-dire, Meshakela, aujourd'hui on parle de Orim Shekulim, pour des parents qui ont perdu des enfants soldats, machin. Donc Shakul, ça veut dire en l'occurrence quelqu'un qui a perdu ses enfants. Donc, hein? Non, c'est pas là? Oui? Donc on te dit, la bracha que la Kadosh Baruch Hu te donne, l'otie Meshakela, Vakara, Shrol, Nakhon. Seulement, en vrai, Tanakh, c'est avec un point. C'est chez Kol. C'est-à-dire? Et donc, l'otie, meshakela, ve'akara, donc, femme stérile, be'artzecha, et mispar yamecha amale. Vas-y, mispar yamecha amale, 120 ans. Ou alors, ça veut dire que tu vas avoir une longue vie. Ou que tu vas vivre une vie de qualité, pleinement, comme il faut. C'est-à-dire? C'est la bracha qu'on a si on fait ce qu'il faut. Et emati ashalach lefanecha ve'amoti et kol ha'am asher tavo ba'em ve'natati et kol oyvecha elecha oref. Ils vont prendre la fuite, tous les peuples devant toi. On est toujours dans ce système si tu fais ce qu'il faut. C'est-à-dire ושלחתי את הצירה לפניך וגרשה את החיבי ואת הכנעני ואת החיבי מלפניך. Qu'est-ce que ça? Ah, c'est quoi le frelon? Le frelon, c'est ça qui va faire fuir le chivi? Bah oui. Bah oui, les amis. Alors peut-être pas le frelon comme nous on connaît, mais je vous rappelle que comment est-ce possible que tout le littoral de Hadera jusqu'à Ashdod, eh bien, le baron de Rothschild a pu les acheter, pas pour une poignée de pain, mais a pu les acheter. Parce qu'il n'y avait personne là-bas. Pourquoi il n'y avait personne là-bas? Ah, il y avait la malaria. Ah, il y avait un moustique qui était venu, qui avait fait les siennes. Donc, on connaît très bien ça. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, je vais envoyer un agent avant que vous arriviez, ce sera plus facile.
Moi, j'essaie de comprendre le sens chronologique du verset. D'abord, on détruit les temples. Ensuite, nous, on fait le bien. Et ensuite, on fait la guerre contre les...
C'est exactement ce que tu vois dans le Sefer Yehoshua et Sefer Shoftim. Quand tu lis Sefer Yehoshua, tu te dis à la fin, c'est bon, on a gagné. Alors comment tu vois, comment t'expliques qu'au début du Sefer Shoftim, on doit faire la guerre? Là, on a déjà fait la guerre. Nachon, mais Sefer Yehoshua, t'as fait la guerre en grand. Maintenant, il va falloir s'occuper des poches de résistance concrètes dans chaque tribu. Des qui résistent encore et toujours aux libérateurs. C'est-à-dire ? Ils n'ont pas compris la référence. C'est pas grave. C'est-à-dire, donc, ok. Ah, on parle pas toujours des 10. Non, on n'évoque pas toujours les 10, puisque en fait, ça va faire référence à l'endroit où ils sont en Eretz Israël. C'est-à-dire, donc, en fonction des régions qui sont abordées dans le verset, on parle de différents peuplades. C'est-à-dire, tous les peuples cananéens ne sont pas au même endroit. D'accord ? Lo agareshenu mipanecha beshana echad, pen tia aretz shmama, veraba alecha chayat asadeh. Il dit, Dieu, je vais pas tous les dégager, tes ennemis, comme ça. Là, Malo. Pourquoi? Moi, je préfère que Dieu, il fasse pouf, et il n'y a plus un seul ennemi. Ils soient tous partis. Ah ben non. Parce que les amis, c'est pas les bisounours. Si tout le monde disparaît, toi, t'auras pas le temps d'intégrer chaque ville, de t'occuper de chaque endroit et machin. Donc, la nature va reprendre son cours. Et les animaux sauvages vont commencer à peupler toutes ces régions-là. Donc non. Léat. Je vais chasser tes ennemis à ton rythme pour que tu n'aies pas de problème de te réinstaller derrière. Est-ce que c'est plus facile de remettre en état une ruine? Parce que vous savez que si pendant 10, 20 ans, une maison n'est pas habitée, ça devient une ruine. Est-ce que c'est plus facile de remettre en état une ruine ou alors de juste changer la déco? Pourquoi la raser? Pourquoi la raser? Non, si c'est une ruine, tu vois où la raser et reconstruire, ça prend du temps. Ou alors la retaper, ou alors t'arrives dans une maison qui est en bon état, juste que la déco, il y a un drapeau nazi. Alors tu l'enlèves, et tu mets un autre drapeau. Ça a l'air? Donc nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, t'inquiète pas, je vais les chasser les athlètes, comme ça tu vas arriver, les maisons, elles seront prêtes à l'emploi. Ok? מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. Tout l'objectif, c'est que tu puisses tranquillement, eh bien, prendre possession de la terre d'Israël. OK? ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידיכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך. Donc, nous dit ici la Torah, je vais te donner les frontières. C'est facile. Alors, c'est quoi les frontières? Alors, d'un côté, Shavti et Gevulecha, Miyam Souf, Adiam Pelishtim. C'est quoi Yam Souf? La mer des roseaux, des joncs. C'est-à-dire Elat. Adiam Pelishtim, la Méditerranée. Ok? Donc ça, c'est bon. Est-ce que ça passe en ligne droite? Est-ce que ça englobe la péninsule du Sinaï? Pas clair. Mais d'un autre côté, on nous dit Adanar. Ou Mimidbar, c'est ça, Adanar. Adanar, c'est le Jourdain. Non, mais il n'y en a pas d'autres en Israël. Ah, le Tigre et l'Euphrate. Eh oui, mais le problème, c'est que on parle de qui? On parle de quoi? On parle de Nahala. Or, la Nahala, elle se fait qu'en Eretz Kenaan. C'est vrai qu'on va hériter de toute la terre d'Israël. Mais la Nahala, c'est-à-dire là où les Shvatim, les tribus, vont s'implanter en tant que tribus, c'est qu'en Eretz Kenaan. C'est-à-dire, l'otichot la hembrit. On n'a pas le droit de faire des alliances avec nos ennemis. Ça paraît logique. Hein? Ça paraît logique. Et pourtant, aujourd'hui, on a du mal, hein. C'est-à-dire qu'on pense que faire des alliances avec nos ennemis, c'est bien. Ben non. Lo tichot lahem brit. Velo lohem brit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais pas une alliance avec leur dieu, je fais une alliance avec eux. Ben non, quand tu fais une alliance avec eux, tu fais une alliance avec leur dieu aussi. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes de faire une alliance avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu acceptes aussi, en partie, ses valeurs.
C'est pas absurde. Puisqu'on parle d'alliance avec Dieu, notre Dieu à nous, donc on aurait pu penser qu'il y a des alliances avec
Dieu. Ben oui, justement, mais on ne veut pas. Ah, alors, si lui...
C'est pas seulement des alliances, c'est pas seulement d'homme à homme. Ça peut être d'homme à...
C'est ce que je te dis, ça va dans les deux sens. En fait, quand tu t'allies avec une culture, tu t'allies aussi avec ses idéaux. Que tu le veuilles ou pas. Est-ce que les goyim, par contre, eux, ils peuvent s'allier à nous? Oui, à une condition. Oui, mais pour qu'on accepte cette alliance qu'ils nous proposent, nous, on leur propose pas. Mais si on veut accepter l'alliance qu'ils nous proposent, il y a une condition. Il doit devenir Ger Toshav. Ger Toshav, c'est pas Ger Tzedek. Ger Tzedek, ça veut dire converti. Non, on lui demande pas de se convertir. On lui demande d'accepter de devenir une minorité nationale sous domination d'Israël. Et qu'il accepte les sept lois de Noir. Donc, il n'y a plus d'idolâtrie. À ce moment-là, on peut commencer à discuter. Ok? Lo yeshvu be'artzecha pen yachtiu otecha li. Qui t'avod et Elohim qui yé lecha le mokesh. Ne les laisse pas en terre d'Israël. Si tu les laisses ici, ils finiront par devenir une mine. Un truc qui va. Hein? Ouais, une bombe à retardement. Celui qui a accepté, comme j'ai dit, garde ton chave. Celui-là n'a pas de problème. Mais celui qui reste encore dans son délire, oui, il va influencer sur toi. On a vu ça avec les Cananéens, où on les a battus, les Cananéens. Je veux dire, tu dis, c'est faire Yoshua Shoftim, on a gagné la guerre. Seulement, tu vois toutes les cinq minutes qu'on devient Cananéen. On sert leur divinité, on fait leur mœurs, et machin. Oui, non, j'ai parlé des Cananéens, mais c'est vrai, les Philistins, ça sera vrai plus tard avec les Grecs, machin. À chaque fois qu'ils sont là, ils influent sur nous.
Comment ça se fait qu'ils ont une si grande influence alors que nous, on a quand même un... Non, bah oui, c'est...
Comment ça se fait que les libéraux, ça marche? Non, mais mec, c'est la Thomas. C'est exactement pareil. Comment ça se fait que ça marche? Non, quelque chose. Comment ça se fait que ça marche? Comment ça se fait que ça marche? C'est autour d'Avar. Dans le propos que je veux t'expliquer, c'est autour d'Avar.
Non, mais dans ma question, c'est pas la même chose.
Oui, mais tu vas comprendre pourquoi je te donne ça comme exemple. Pourquoi ça marche? Parce que c'est facile.
Ah, d'accord.
Attends, tu veux être Oved Hashem?
C'est pas facile d'aller sacrifier son enfant à un dieu, une statue.
Si, bien sûr que c'est facile. C'est comme.
Pas facile.
Mais si, c'est l'ambiance de l'époque. Toi, pour toi et moi, c'est pas facile, c'est normal. Nous, on dit, mais attends, mais c'est des fous. Mais à cette époque, tout le monde le fait. Ce qui n'est pas facile, c'est de ne pas le faire. Mais en toi et moi, on ne comprend pas ça, bien sûr, Baruch HaShem. Mais quand tu regardes, c'est quoi Avodat HaShem? Et c'est quoi Avodat Aphrodite? Bon, je pense que pour un homme, la cinquantaine, qui a des problèmes avec son couple, Avodat HaShem, Avodat Lamidot avec sa femme et tout, c'est pas toujours facile. Mais aller faire un tour au temple d'Aphrodite, la avoda, service divin de la prêtresse d'Aphrodite, voilà, c'est plus facile. D'ailleurs, donc c'est pas bon. Tu regardes la avoda Zara, c'est ambiance, c'est coloré, ça met en avant tes Yetzarim. D'ailleurs, voilà. Ça. Ok. Non, je dis c'est beaucoup plus facile. C'est le judaïsme libéral, il est très attirant. Il demande rien. Il y a aucune, bah oui, il y a aucune contrainte. Ça se passe dans le cœur. Moi, je suis juif dans le cœur. Moi, je suis super croyant dans le cœur. Ah, tu te rends pas compte. La halakha, c'est le chashuv. Ah, c'est pour les rabbins, ça. C'est ça. Mais vas-y. Tov, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça y est, on est prêt à lancer les hostilités. Nachon. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu va dire à Moshe, « Ve'el Moshe Amar, allez à l'Hachem, Ata ve'aron nada ve'aviu ve'shivim mizikne Israël, ve'ishtachavitem mirachok. » Allez à l'Hachem, montez vers Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une montée simplement physique. Il faut monter. Et à ce moment-là, quoi? Ve'ishtachavitem mirachok. Vous n'y êtes pas encore. Venigash Moshe levado el Hashem. C'est-à-dire que Aaron, Elazar et Nadav et Avihu, Veshivim Askenim, ils sont élevés par rapport au peuple, mais loin par rapport à Moshe. Venigash Moshe levado el Hashem. Vehem lo yigashu. Vaham lo yalu imo. Donc il y a Moshe, Aaron, Nadav et Avihu Askenim, et le peuple. Nakhon. C'est pour ça qu'il y a le verset suivant. Au début, ils sont tous montés.
Mais c'était ça, la...
Qu'ils montent tous et qu'ils se rendent tous compte que Moshe, il continue à avancer. Et là, on nous dit quoi? Vayavo Moshe vayisaper la'am et kol divrei Hashem v'et kol ha'mishpatim. Vayan kol ha'am, kol echad. Vayomru kol ha'devarim asher diber Hashem na'aseh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que tout le monde a dit Naasé? Moi, ça me fait penser à un autre verset qu'on connaît bien. Naasé Venishma. Donc là, il n'y a pas marqué Naasé Venishma. Il y a juste marqué Naasé.
Non, mais il n'y a pas écrit Naasé.
Quoi?
Diber Hashem.
Naasé.
Ouais, Diber Hashem.
Regarde ce qu'il y a marqué dans trois. Regarde ce qu'il y a marqué trois versets plus tard. Alors, je me permets de continuer. Vertov Moshe, kol divrei Hashem, vashkem baboker, vayiven mizbeach tachat ahar, ushtem esrei matzeva, leshnem asar shivtei Yisrael, vayishlach et naare bnei Yisrael, shvevit, on y reviendra. Vayalu olot, vayizbechu zvachim shel amim la'Hashem parim, vayikach Moshe chatzi adam, vayersem bahaganot, vechatzi adam zarak al mizbeach, vayikach sefer haberit, vayikha beozne ha'am, vayomru, kol asher diber Hashem, Naaseh v'nishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que tout d'un coup, c'est Na'are b'nei Israël qui viennent faire la avoda? Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.